quelqu'un de... Bonjour.
Bonjour Lucien, bonjour, bonjour.
Bonjour Daniel, bonjour à toute l'équipe, bonjour chers auditeurs. Article 25 pour la dernière émission de l'année.
Avant-dernière émission.
Il y a une émission la semaine prochaine aussi.
Oui, mercredi, je serai en émission mercredi. Oui.
Ah d'accord. Pour l'avant-dernière émission donc. Et voilà, et aujourd'hui, bon, les sujets sont divers et variés, on va dire. Et la première chose, c'est que vous savez que vous savez moins que pendant juste avant les fêtes, là, on va dire, le gouvernement a décidé d'accélérer la mise en œuvre de Hercule, qui est un plan de démantèlement de ce qui reste de l'EDF, quoi, de notre service public de l'électricité. Donc à ce sujet, pour faire court, on devait avoir des énergéticiens qui devaient venir nous voir aujourd'hui, mais bon, j'ai l'impression qu'ils sont un peu débordés. À ce sujet-là, tout de même, le Mouvement national de lutte pour l'environnement a fait une déclaration par rapport à ce projet. Vous savez que l'énergie, c'est un sujet hautement sensible. Donc je vais vous lire la déclaration, et comme ça vous ferez peut-être une petite idée de la gravité de ce plan. Déclaration du MNLE au sujet de la lutte des électriciens gaziers contre le projet Hercule et pour une continuation énergétique durable. Hercule est le nom d'une opération de démantèlement de ce qui reste de l'opérateur historique EDF. Alors qu'en matière d'énergie, nous avons besoin de solidarité, de complémentarité, l'Élysée veut créer diverses entités indépendantes les unes des autres et accélérer l'entrée de capitaux privés dans certaines d'entre elles. Nous tenons d'abord à rappeler que l'électricité est une énergie que l'homme a su dompter et reproduire pour s'éclairer, se chauffer, se déplacer et s'émanciper de beaucoup de tâches ingrates. Ce n'est donc pas une marchandise mais un bien commun de l'humanité dont le coût humain et environnemental est suffisamment élevé. Un mot aussi du gaz naturel qui est sans doute l'énergie fossile la moins coûteuse environnementalement. Ce serait folie de s'en passer trop tôt car cela mettrait en danger notre sécurité énergétique dans l'attente de solutions durables à mettre en œuvre. De plus, les installations thermiques actuelles trouveront toute leur utilité avec le développement d'une filière hydrogène, un des moyens les plus efficaces pour contrebalancer l'effet intermittent des énergies nouvelles renouvelables qui ont la fâcheuse habitude de produire lorsqu'on n'en a pas besoin et de ne pas produire lorsqu'il le faudrait. Il faut être conscient que l'électricité nécessite en permanence équilibre entre production et consommation. Une gestion centralisée des énergies est indispensable pour garantir cet équilibre. De plus, nous ne sommes pas tous égaux devant la possibilité de produire l'énergie. Il y a ceux qui peuvent produire et en tirer une rente et ceux qui ne peuvent pas produire et qui abondent la rente des producteurs en payant leurs factures. Là encore, seul un service public des énergies peut garantir la péréquation tarifaire, l'équité, la justice. Si les énergéticiens sont en lutte pour leurs outils de travail, leurs conditions de travail et leurs salaires, ils se battent aussi pour cela, que ces énergies restent accessibles au plus grand nombre. Ce ne seront sûrement pas les requins de la finance voulant s'emparer des énergies uniquement pour le profit qui offriront des solutions durables justement à notre futur énergétique. C'est bien ces femmes et ces hommes en lutte qui seront dans l'avenir maîtriser ce mix énergétique et sa production tout en préservant notre environnement. Le MNLE apporte son soutien plein et entier à tous les énergéticiens en lutte dans ce pays contre le projet Hercule, qui est un plan toxique sur ses enjeux fondamentaux, climatiques, environnementaux et sociaux. Il faut une production des énergies et leur accès qui soit partagé et juste. Voilà, c'est la déclaration du... C'est bizarre ça. Et c'est la déclaration du MNLE sur l'énergie.
Ok, Lucien. Écoute, je t'écoute, oui.
dans le qu'il faut une production des énergies et leur accès qui soit partagé juste dans le respect de l'humain et de la nature. Voilà la conclusion. Donc, encore un sujet d'une extrême gravité, hein, parce que, nous, ça va, dans le sud, c'est bon, mais t'imagines, plus au nord et tout, la gravité, pour se chauffer, pour tout, quoi, c'est énorme. Et il faut savoir que l'enjeu est fondamental.
L'enjeu est fondamental.
Tout est dit dans ce petit résumé. Mais après, il y a d'autres sujets, là. Daniel, on en parlait tout à l'heure, le projet de loi qui vient de sortir là sur notamment, on va reparler Covid, sur la vaccination. Alors,
pseudo-vaccin.
On voit bien que le pseudo-vaccin, voilà, c'est bien de dire pseudo-vaccin. Bon, il y a plusieurs avis là-dessus, mais bon, il faut savoir que c'est très grave parce qu'il y a certains professeurs qui ont dit la vérité sur ce vaccin. Ils se sont carrément fait mettre en hôpital psychiatrique. On voit donc bien la dérive extrêmement dictatoriale de ce pays. Et c'est très grave. Hein. On enferme les gens. De plus en plus, il y a certains députés Godillot de LRM entre autres, qui veulent obliger à vacciner. Il y en a même un qui avait sorti. Mais là, ça y est, le projet de loi est sorti. Ils contiennent des atteintes extrêmement graves à la liberté, notamment l'obligation, soi-disant, de se faire vacciner si on veut pouvoir voyager ou selon travailler, trucs de l'autre monde.
Ou aller au jardin public, ouais.
Tout en sachant que ce vaccin peut être dangereux pour la santé, hein, que ce soit extrêmement clair. Je dis peu parce que, quand je vois le nombre de professeurs et tout qui s'élèvent contre, et d'ailleurs qu'on essaye de brimer et tout, et d'un autre côté, c'est toujours pareil, il y a ceux qui sont vendus aux laboratoires pharmaceutiques et qui évidemment...
Fidière et autres,
voilà. Donc c'est toujours... Mais en tout cas, celui qui morfle, c'est toujours le même, c'est le peuple, quoi. Hein? Parce que... Et ça devient insupportable. Et donc dans cette loi, il n'y a pas que ça, il y a aussi... Des entraves à la liberté sur le fait de l'urgence sanitaire où l'État se réserve le droit d'interdire les manifestations s'il semblerait qu'il y ait une augmentation de la pandémie, enfin, ce qui est ridicule parce qu'on sait que maintenant, malheureusement, ce virus s'est installé dans le monde entier et que c'est à force de fabriquer les défenses immunitaires et avec le temps, comme toutes les grippes, hein, que les choses se tasseront et que malheureusement, pour les plus atteints, la seule efficacité jusqu'à présent, c'est la chloroquine qui est interdite. Oui. Hein, parce que quand même, elle a prouvé dans une certaine mesure, pas pour tout le monde, mais dans une certaine mesure, surtout quand c'est pris rapidement, d'après ce que je sais, son efficacité. Et bien entendu, des services de santé et des hôpitaux, on va dire, dignes d'un pays qui est la sixième puissance mondiale économique. Or que ce n'est pas le cas du tout, comme à ma dernière émission je l'avais dit, on est en train de détruire le système de santé de ce pays, non seulement les hôpitaux, mais la sécurité sociale aussi, qui si la perd là, alors je ne sais pas où on va aller, hein, franchement c'est peu de le dire. Donc après, à un moment donné, elle complète bien d'ailleurs la loi sur la sécurité globale, n'est-ce pas Daniel?
Oui, tout à fait, tout à fait.
Parce qu'il faut savoir que la loi sur la sécurité globale, notamment l'article, on n'a pas le droit de filmer les policiers, on n'a pas si, on n'a pas la... Enfin bref, où tout est interdit et où donc du coup, selon sur qui on tombe, ils vont pouvoir taper sans vergogne. Et c'est ça, non hein
Oui, c'est tout à
fait alors, ça. Alors, d'un côté, il y a ça, et de l'autre côté... soi-disant pour un risque sanitaire, on peut interdire les manifestations et tout. Vous n'avez qu'à voir un peu le résultat d'une situation où, par exemple, comme il est déjà prévu début janvier, beaucoup de manifestations et contre Hercule, et contre la loi sur la sécurité globale, et contre toutes les mesures ineptes, notamment la culture qui est en train de s'effondrer littéralement, or que c'est complètement ridicule, on ferme les théâtres, et par contre, je crois qu'il y a Disneyland qui est ouvert, enfin, il y a un tas de trucs, et puis il y a la queue dans les métros, c'est comme ça n'a plus de sens tout ça. Ça n'a plus de sens, on sait très bien que du moment qu'on note le peu de culture qui restait, parce qu'elle avait déjà bien morflé, mais quand même, il y en avait encore. Du moment qu'on note la culture qui fait, ce qui est une partie de la conscience, et même de la conscience collective des peuples et des gens, quoi. Du moment qu'on note la culture, on arrive plus souvent, plus facilement à soumettre les gens. Ça, c'est une évidence. Hein. Et donc là, oui, la culture, c'est essentiel. Oui, la liberté, c'est essentiel. Oui, le droit à vivre dignement de son travail, c'est essentiel. Tous ces essentiels sont remis en question par ce capitalisme dictatorial et financier qui a complètement envahi le monde et qui, en France, de par son chef de file qui est Macron, il faut le dire comme il est, Macron est le chef de file de ce capitalisme dictatorial. D'ailleurs, il se comporte de plus en plus comme un petit dictateur, avec son Premier ministre, bien choisi d'ailleurs, parce que quand on voit un peu comment il se comporte lui-ci, on voit bien à qui on a affaire. Donc, ce n'est pas un problème. Les réactions seront rapides, d'après ce que j'ai vu, notamment au niveau de la CGT, de l'Union départementale CGT des Bouches-du-Rhône, avec plusieurs actions de prévues dès début janvier.
Début janvier, oui.
Donc, à partir de ce moment-là, chers auditeurs, avec Daniel, on est un peu le 21 décembre, le projet de loi, là, c'est complètement anticonstitutionnel, vous imaginez un peu, un vaccin risqué comme ça, moi je sais pas, moi s'ils obligent un de mes parents qui ne va absolument pas se faire vacciner parce qu'il sait très bien qu'il y a des risques et qu'après tout il n'a pas envie, après tout, voilà, c'est son droit le plus strict, ben non. Obligatoire, selon. Obligatoire.
C'est-à-dire, Macron l'a dit que ce ne soit pas obligatoire. Mais, ils vont beaucoup plus loin que ça. Hein.
Ah oui, ben oui, évidemment. Ils vont beaucoup plus. Ça ne serait pas obligatoire, mais ce n'est pas obligatoire, mais si tu ne te fais pas vacciner, tu n'as pas droit à ci, tu n'as pas droit à ça.
Donc tu pourras plus.
Donc, en gros, ce n'est pas obligatoire, mais c'est obligatoire, quoi.
Voilà, c'est ça.
Voilà, donc c'est n'importe quoi. Il faut savoir que ça,
Donc, en définitive, tu restes chez toi et pour avoir le pain, tu envoies un petit panier par la fenêtre, on te met le pain et tu remontes le panier avec le pain.
Oui, quoi, en gros, tu es emprisonné chez toi si on ne te vaccine pas. Quoi.
C'est
caricatural, à peine caricatural.
Comme à l'ancienne. Voilà.
Donc, après, à un moment donné, je me demande si ce n'est pas eux qu'il faudrait piquer en premier.
Les premiers, ce sont les résidents des EHPAD. Et là, je pense qu'on va avoir des surprises dans pas longtemps.
Alors, je ne sais pas où ça va.
D'abord, les hommes politiques et nous après.
Non, de toutes les manières, des réactions sont prévues dès début janvier. Et il faut voir le côté le côté positif. Maintenant, on va. Le côté positif, c'est qu'il y a quand même de plus en plus de gens qui se rendent compte de cette farce, farce tragique, hein, mais de cette farce tragique dans laquelle nous entraînent les dirigeants de ce pays. Farce tragique qui d'ailleurs n'a qu'un but, hein, de nous le véritable pillage, comme je le disais en début d'émission, Hercule, c'est ni plus ni moins qu'un plan de pillage. Il faut rappeler que quand même le DF, c'est Marcel Paul, un ministre communiste, qui a dit l'énergie, c'est justement pas une marchandise comme une autre, c'est même pas une marchandise, c'est un bien commun de l'humanité, et qui a dit voilà, on va mettre tous les travailleurs énergéticiens au service du pays. Et on va faire une grande entreprise qui s'appelait EDF-GDF, qui va permettre d'assurer un plus énergétique à ce pays, afin qu'il puisse se développer. Il faut savoir, c'était ruiné la France. Hein. Et grâce à ce mix énergétique et cette puissance des travailleuses et travailleurs de l'énergie, qui ont, je le rappelle, construit un tas de barrages hydrauliques, qui ont construit des centrales aussi nucléaires, malheureusement, c'est vrai que maintenant, il va falloir les gérer pour leur démantèlement et pour aller vers une autre énergie. Mais c'est toujours pareil. Je ne pense pas que ce soit des requins privés qui vont faire ce genre de travail correctement. Il n'y a qu'à voir déjà les parts de sous-traitance qu'il y a eu par rapport à certaines choses, sous-traitance privée sur ce genre de trucs, ouais. Et les, les, les manquements qu'il y a. Enfin bref, en plus, bien entendu, dans ce plan Hercule, la continuation de la privatisation des barrages hydrauliques, alors là, c'est une atteinte à la sécurité nationale, hein. On va le dire clairement. Une atteinte à la sécurité nationale pour deux raisons. Un, parce que du moment que c'est dans un privé, du moment que le prix de l'électricité sur le marché est bas, il n'ouvrira pas les vannes. Sauf que pour des besoins agricoles, pour des besoins d'eau, hein, voilà.
Ils lâcheront, mais il faudra banquer.
Ils lâcheront, mais il faudra banquer. Et pour des besoins aussi de refroidissement des centrales nucléaires qui sont en aval de certains barrages. Donc, là, à un moment donné, vous imaginez le conflit d'intérêts. En gros, il y a la centrale nucléaire qui est obligée de produire. Hein. Ben, des fois, ils peuvent la ralentir, l'augmenter. En fait, c'est assez complexe à gérer une centrale nucléaire. Elle veut pas, c'est pas, ça ne va pas tout seul. Et cette énergie-là, en plus, tenez-vous bien, hein, comme ça, on est tranquille. C'est sûr qu'on ne pourra pas aller vers une transition énergétique rapidement, puisque c'est encore EDF, quand même, les centrales nucléaires. Oui, c'est tellement délicat, vous comprenez, le privé n'en veut pas trop. Sauf que comme cette électricité, elle est vendue à un prix bas, puisque ça ne coûte pas, une fois qu'elle fonctionne, la centrale nucléaire, on va dire, on produit de l'énergie électrique à un coût relativement... correct.
Oui, mais nous, on n'a pas les trop cher.
Sauf que, dans ce cas-là, nous, elle va encore augmenter en février.
Oui, de 2%.
Oui, mais c'est par rapport à ça, ce que je t'ai dit. Oui, oui. Mais le marché, c'est devenu un marché. C'est à vomir. Et c'est extrêmement dangereux, quoi. On peut mettre en difficulté beaucoup, beaucoup d'entreprises, beaucoup de... Et on peut mettre en difficulté les gens, carrément, avec... Il y en a déjà, tu rentres dans la maison, ils ne se chauffent presque pas parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer l'électricité. On est d'accord. Bon, alors, les centrales nucléaires, tenez-vous bien, hein. Donc, ça veut dire que par rapport à soi-disant l'Europe, le machin, que pour soi-disant la concurrence libre, enfin, toutes leurs conneries, quoi, hein, y a pas d'autre mot, hein. L'EDF, donc nucléaire, est obligé de vendre cette électricité au prix coûtant aux opérateurs privés, tenez-vous bien. C'est-à-dire qu'ils entretiennent la centrale, enfin, les travailleurs, machin, et tout. Tout ça, ça a un coût. Ben, ça a un coût, l'énergie. Hop, d'accord. Mais il faut prévoir quand même des budgets d'investissement pour l'entretien futur, pour la transition énergétique et tout. Et là, tu peux pas. Puisque comme ils sont obligés d'avoir un prix coûtant et qu'il n'y a plus ce truc-là, résultat, tu sais combien EDF perd par rapport au fait qu'on les oblige à vendre à prix coûtant cette énergie à des privés, 2 milliards par an.
2 milliards par an, tant que ça.
Ah oui, minimum. J'ai lu ça il n'y a pas longtemps. Donc il y a ça. Et en plus, alors ça, c'est une chose. Mais le pire, et ça risque de créer des situations dramatiques. C'est qu'il veut aussi démanteler la distribution de l'énergie. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez les dernières tempêtes ou quoi, quand les énergéticiens interviennent pour vite rétablir le courant,
des dizaines de
familles, des trucs de... Il faut savoir le boulot de fou qu'ils font. Et enfin, moi, j'ai une certaine admiration pour ces gars-là, parce que c'est... Et puis, il faut savoir que l'électricité, tu la manies... Toi, Daniel, qui connais l'électricité, si tu la manipules pas comme ça, quoi. C'est pas, tu prends pas ton sac d'électricité et
non,
tu le portes à côté.
Non, l'électricité,
ça n'existe pas.
C'est vraiment quelque chose de particulier. Bon, on va pas faire une émission là-dessus. Bon, mais on pourrait faire venir, comme ça s'appelle, des techniciens EDF éventuellement.
J'espère qu'ils viendront pour expliquer les enjeux fondamentaux, comme je l'ai dit dans le résumé du MNLE. Là. Mais donc je disais, c'est pas ça. Le truc, c'est que la distribution aussi veut démanteler Macron. La distribution, ça veut dire tout le réseau des transformateurs, des lignes électriques, des lignes enterrées, tout le réseau de distribution, quoi. un réseau de distribution, il doit être cohérent en électricité. Je vous rappelle que se stocke difficilement, hein, même si maintenant, soi-disant, on arrive à... Mais vous imaginez l'énergie qu'il faut pour des villes, pour des entreprises et tout. Comment c'est ça, c'est un flux constant. Donc, de la production à la distribution, il faut que ça soit réglementé, ça soit organisé par un pôle public, comme on le dit, parce que c'est une nécessité vitale. Je dis bien une nécessité vitale. Donc là, on voit qu'avec ce projet Hercule, pour leur profit personnel, ce petit banquier qui est malheureusement notre président, je dis petit banquier exprès parce que en fait, finalement, c'est vrai, il obéit bien aux ordres. Donc on lui a dit, tu vends tout, on pille tout et fais-le. Et lui, il applique simplement ce qu'on lui a dit de faire. Donc vous voyez bien que là, il n'y a pas 36 000 solutions. Je crois bien qu'il va falloir aller vers des solutions beaucoup plus radicales. Et que dans chaque famille, en ce Noël, et je conclurai là-dessus parce qu'après je suis obligé de m'en aller, et dans chaque famille, pour ces fêtes de fin d'année, il faut bien entendu que vous preniez soin de vous, de vos familles, de vos proches, mais que vous pensiez aussi à l'avenir, à votre avenir, à l'avenir de vos anciens, à l'avenir de vos enfants, et de décider ensemble, pour chacun ses réseaux, de s'unir et d'en finir avec cette façon qu'il y a de faire dans ce pays où la vitesse de destruction de la cohérence sociale et économique et environnementale qui existait tant soit peu, parce qu'il y a les attaques à l'ONF aussi, il y en a de tous les côtés des attaques, doit rester. Donc, je veux vous le dire, chers auditeurs, je vous remercie encore de m'avoir écouté, de nous écouter sur l'émission Article 25, qui bien entendu a une programmation pour 2021 qui est déjà...
Elle est encore en fréquence, toute l'année, oui, encore.
Voilà, avec, on l'espère, de plus en plus d'intervenants, comme la dernière fois étaient venus les camarades de l'éducation, de la sécurité sociale, des gens qui se battent quoi, pour un avenir meilleur, pour plus de justice, pour plus de dignité, plus de solidarité, pour des salaires meilleurs. Eh bien, tout ça contribue à ce que fait, ça améliore non seulement, ça améliore nos conditions de vie, en améliorant les conditions de vie, nécessairement l'environnement s'améliore aussi. On peut penser à améliorer son environnement et à le préserver uniquement quand on vit dans des conditions dignes. Et ce capitalisme-là et la façon dont on va dire, le petit banquier qui nous sert de président nous mène dans le mur, on va dire, et à la destruction de ce pays tel qu'il est, on voit bien que... je vais le dire un peu crûment, je pense qu'ils n'en ont rien à foutre de notre vie. En fait, s'il y en a qui meurent, c'est pas bien grave, de toute façon. Hein ? Voilà. Au point où on en est. Bon débarras, les plus pauvres, les plus handicapés, tout ça. Hein, ils rapportent rien au capital, donc on peut s'en débarrasser. Excusez-moi de parler un peu crûment, mais voilà. Donc voilà, c'est pour ça que je vous répète. Prenez soin de vous. Restez droit. N'ayez pas peur. À un moment donné, dépassez. On a peur, c'est normal un peu quand même. Mais
dépassez vos limites.
Dépassez nos limites. C'est ce qu'il faut faire et c'est ce qu'il faudra faire. Et je vous souhaite tout de même et de bonnes fêtes de fin d'année et mes meilleurs vœux pour 2021. Merci de nous écouter. Et merci de nous écouter encore en 2021, car nous serons présents et nous serons toujours là pour l'actualité économique, sociale
et politique.
Et pour une autre voie et politique et pour une autre voie pour l'humanité. Au revoir, à très bientôt.
Merci Lucien. Ben écoute, on va se revoir, on se reverra d'ici quelques jours. Il est 14h37, donc 3h moins 25 bientôt. Je vais mettre un peu de musique et je continuerai l'émission jusqu'à sa fin, jusqu'à 15h. Voilà. Allez, j'envoie un peu de musique. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Alors, je reprends le cours de l'émission. Notre ami Lucien vient de quitter le studio. Et je vais rester dans le domaine de l'énergie. Lucien a beaucoup parlé dans l'énergie. Maintenant, nous allons voir ce qu'il y a exactement, que s'appelle de l'augmentation EDF, des prix d'électricité, qui a eu donc ce mois-ci, donc décembre 2020. Donc, c'est encore ce mois-ci. Et ensuite, nous verrons la hausse de janvier 2021 qui sera approximativement 2% de plus pour le prix de l'électricité, donc pour les ménages. Voilà, donc, essayons d'en voir un peu ce qu'il en est par rapport à décembre 2020. Voilà. Augmentation EDF et des prix de l'électricité, décembre 2020, j'y viens. La nouvelle augmentation, je précise, c'est pour ce mois-ci, hein. La nouvelle donc augmentation du prix de l'électricité plus 2,4% du 1er février 2020 ne sera pas la dernière. En effet, le gouvernement a confirmé une nouvelle augmentation de 1,54% au 1er août 2020. Alors, comment expliquer cette nouvelle hausse du tarif EDF, mystère et boulot de gomme? Quelle prévision sur le futur tarif d'électricité? Est-il possible de réduire sa facture d'électricité en 2019? Cela n'est pas facile et le Covid cette année n'a absolument rien arrangé du tout. Voilà. Donc toujours pour août, maintenant un petit retour sur août donc de 2020 pour faire bonne mesure. Donc pour 2020, une nouvelle augmentation du tarif réglementé d'électricité a été annoncé, avait été annoncé pour le, par la CRE pour le 1er août 2020. Bon, le prix de l'électricité a augmenté pour les particuliers, les professionnels, comme, etc., etc., etc. Pour les particuliers, une augmentation de 1,82% hors taxe, toujours pour le mois d'août, hein, soit 1,54 euros TTC. Voilà. Bon, pour les professionnels, au tarif bleu, tarif réglementé, le prix augmente de, a augmenté pardon, de 1,80%, quoique les pourcentages, c'est pas très, je ne pense pas que ce soit le plus intéressant pour toutes celles et ceux qui nous écoutent. Voilà, donc c'était pour 2020. Bon, je passe quand même sur février 2020. Je peux quand même dire un petit mot dessus pour 2020, donc un mois de février. Au 1er février donc 2020, les tarifs réglementés d'électricité, fixés par les pouvoirs publics, ont bien augmenté de 2,4%. Voilà, pour les particuliers, les petits, les professionnels. Et j'en resterai là pour 2020. Bon, alors maintenant, essayons de voir qui l'année par rapport à 2021. Et nous allons voir ce qu'il en est exactement. Le temps de programme un peu, je m'en excuse, c'est un peu long, mais je ne peux pas faire différemment. Voilà. Donc, augmentation au prix de l'énergie pour 2021, c'est bien ça. Ce sera une hausse de 2%. 2% TTC. Alors, essayons quand même d'y voir un peu plus clair. Voilà. Voilà. J'y viens, c'est un peu long à venir, je m'en excuse, mais c'est quand même assez important. Voilà, augmentation prix énergétique janvier 2021, hausse de 2%, pardon, TTC. Donc il faut s'attendre à une hausse, donc cela ne sera pas fini, cela continuera tout au long de l'année à augmenter régulièrement. En 10 ans, si mes renseignements sont exacts, le prix de l'énergie est passé à 50%. En 10 ans, imaginez un peu. Alors imaginez un peu en 2020 ce qui risque de se passer. Bon, le prix de l'électricité évolue chaque année. Bon, ça on le sait, lors de la révision par la commission de régulation donc de l'énergie, comment le tarif du courant ou du jus, appelez ça comme vous voulez, a-t-il varié, a-t-il augmenté ou diminué depuis l'ouverture du marché de l'énergie, etc., etc., bon, à la concurrence par rapport à la période précédente. Bon, voilà. Le tarif réglementé de l'électricité EDF a augmenté de 2,4% à partir du 1er février 2020, je l'ai dit. Alors, et là, nous sommes bientôt en 2021, donc augmentation de 2% de plus pour le courant. Il est 14h45, je vais mettre un peu de musique et je reprends l'émission.
Fuck you. 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 this. I'm the protagonist. I don't go capping it. I fly solo like one cup in a cabinet.
Bon, je reprends le cours de l'émission, je reprends un peu ce qu'a dit Lucien, étant donné que c'est important, sur la question du Covid, projet de loi qui fait craindre l'opposition, la mise en place d'un passeport sanitaire. Alors, qu'est-ce qu'il en est exactement ? Bien, j'ai un texte devant moi, c'est un texte. C'est un projet de loi qui propose un cadre pérenne de gestion des crises sanitaires, faits politiques. Voilà, notamment dans les rangs de l'extrême droite en cause, un article conditionnel déplacement à la vaccination contre le coronavirus. Bon, après les tests, les mises en quarantaine, le vaccin contre le Covid-19, sera-t-il le futur ces armes pour pouvoir, par exemple, prendre l'avion et voyager à l'étranger, ça, si le gouvernement a décidé de ne pas rendre obligatoire la vaccination qui débutera donc dimanche 27 décembre, donc dans quelques jours, quoi. Il y a un visage donné au Premier ministre, monsieur le Premier ministre, il ne faut pas l'oublier celui-là, hein. De conditionner certains déplacements en période de crise sanitaire à l'administration d'un vaccin dans le cadre d'un projet de loi présenté le 21 décembre en Conseil des ministres. Chez les ministres, hein, pas ailleurs, chez les ministres, hein, attention. Hein. Bon, ce texte qui rappelle l'idée de mettre en place un passeport sanitaire, vous savez, un truc où on met un tampon, là. Présenté donc fin novembre par l'Association internationale du transport aérien, bon, voilà. Provoque une levée de boucliers, notamment dans les rangs d'une partie de l'opposition. Bon, il reviendrait selon ses détracteurs à rendre la vaccination obligatoire et conviendrait au respect des libertés et des données personnelles. Voilà, ça, c'est encore ce qu'ils disent. Que prévoit exactement ce type de mesure ? Existe-t-il déjà pour d'autres vaccins ? Comment fonctionnera-t-il ? Etc., etc., etc. Autant de questions à quelles il faudrait répondre. Alors, le régime pérenne de gestion des urgences sanitaires. Donc, c'est le projet de loi qui va imaginer l'après 1er avril 2021, donc 4 mois après, quand le cadre législatif sera mis en place au début de la crise sanitaire. En mars 2020, ça sera caduque. Donc en mars 2020, ne comptera plus. Bon, l'exécutif veut mettre en place un système qui puisse perdurer dans le temps. L'objectif de ce texte est de nous préparer à la fin de l'état d'urgence. Est-ce que vraiment on veut nous préparer à la fin de l'état d'urgence ? Ça, j'en doute un peu. Et d'établir un cadre juridique durable face aux crises sanitaires. À venir expliquer le porte-parole du gouvernement, monsieur Gabriel Attal, je crois, enfin, je ne sais pas trop. Bon, enfin, bref, c'est pas très important. Bon, lors du compte rendu du Conseil des ministres du lundi 21 décembre. Donc c'est passé. Il a fait comme le café, il est passé. Bon, que prévoit l'article le plus controversé du projet de loi ? Et là, c'est le plus important, parce que dans son article, le projet 1 de la loi prévoit de modifier l'article. Bon, et l'article, je passe. Du Code de la santé publique, en octroyant au Premier ministre le pouvoir de subordonner les déplacements des personnes, donc les pistés, quoi, leur accès aux moyens de transport ou à certains lieux, ainsi que l'exercice de certaines activités, la présentation des résultats d'un test de dépistage, et oui, établissant que la personne n'est pas affectée ou contaminée ou suivie d'un traitement préventif, y compris à l'administration d'un vaccin ou d'un traitement curatif. Voilà. Donc, en définitive, faites-vous vacciner. Enfin, c'est pas moi qui le dis, vous ferez ce que vous voudrez. Hein, voilà. Mais eux, l'État, le gouvernement veut que tout le monde se fasse vacciner. Et c'est pas tout le monde qui se fera vacciner, croyez-moi. Bah, y a aussi les détracteurs du projet de loi qui redoutent ainsi un possible durcissement des conditions d'accès à certains moyens de transport, comme l'avion. En l'état, le texte pourrait, selon eux, conditionner l'embarquement à la présentation d'un test de dépistage négatif, donc voilà, ce qui est déjà le cas pour certains vols depuis la crise du coronavirus, mais aussi l'administration de vaccins contre certaines maladies. Bah, ce dispositif, il n'est pas nouveau, hein, enfin... Oui, ça a été le cas pour la fièvre jaune, et pas mal d'autres maladies. Hein, voilà. Alors, cet article est critiqué, oui, bien sûr. Hein, le Rassemblement national, RN et la droite ont alerté sur une possible restriction à la liberté de déplacement et sur une manière détournée de rendre la vaccination obligatoire. En France, lundi soir, Florian Philippot, qui est président des Patriotes, bon. Et comme il est ce qu'il est, hein. Dénoncer l'instauration d'un passeport sanitaire à travers un projet de loi Castex. c'est un roman d'actualité à l'intégralité. Hein. Voilà. Et j'en resterai là parce que sinon ce serait beaucoup trop long. Voilà, il est 14h52, je vais mettre un peu de musique et je rendrai l'antenne pour 15h. Voilà, allez, un peu de musique.
I'ma hit you back in a minute. Yeah, yeah. I don't play tag, bitch, I've been there. We don't fuck with lies, we don't do goodbyes. We just keep it pushing like aye, aye, aye. I'ma hit you back in a minute. I don't play tag, bitch, I've been there. We don't fuck with lies, we don't do goodbyes. We just keep it pushing like aye, aye, aye.
Mon quartier d'attache pour élever mon garçon. Entre le taf et la mif, ça ralentit forcément un peu l'artiste. Mais malgré tout ce à quoi tu dois renoncer, fonder un foyer, me tendre les bras et j'ai foncé. Mes priorités ont changé, j'ai dépollué mon mode de vie pour évoluer. J'ai lu mon avenir sur une table allongée. Le quotidien ne sera jamais plus le même. Depuis ce jour, chaque jour, je dis je t'aime. J'ai échangé les délires de la vie parisienne contre des soirées en famille autour d'une chaudière de riz à la haïtienne. J'ai traîné mes claquettes.
À Marseille,
la ville du soleil.
j'écoutais Raspigao.
Non.
Voilà, et eh bien notre émission se termine. Je vous remercie de votre écoute. Je vous donne rendez-vous donc mercredi pour la dernière émission donc de l'année, et nous serons toute l'année 2021 donc ici même à la Friche, et nous continuerons à informer, à faire des émissions, à essayer d'avoir du monde, des personnes pas forcément ça s'appelle des personnes syndicalistes ou autres, mais toutes les personnes qui voudraient bien venir s'exprimer sur les ondes de Radio Galère. Voilà, bon après-midi à toutes et à tous, et je vous dis à mercredi prochain, et pour ceux qui fêteront donc Noël, eh bien bon Noël pour tous les enfants qui auront leur jouet, et que d'autres malheureusement n'auront rien. Voilà. Allez, bon après-midi à toutes et à tous, et je lance le générique. Au revoir.